Éric Denessé, bonsoir.
Bonsoir.
Éric Denessé, vous dirigez le Centre français de recherche sur le renseignement et vous êtes l'auteur avec Pierre-Alain Laclotte d'un très bon livre, La Nouvelle Guerre secrète, les unités militaires clandestines et opérations spéciales, c'est aux éditions Mareuil. Alors, ce livre, et je reprends vos propos car ils illustrent parfaitement ce que vous avez voulu montrer, ce livre est consacré aux unités militaires clandestines britanniques, américaines et israéliennes qui, depuis les années 70, ont été amenées à accomplir dans le plus grand secret des missions particulièrement périlleuses. Au Royaume-Uni, c'est un principe admis au plus haut niveau du gouvernement que les opérations clandestines doivent être à la pointe du combat contre le terrorisme. Aux États-Unis, les autorités politiques estiment que pour réaliser de telles missions en environnement hostile, les forces spéciales sont mieux préparées et plus capables que les officiers de la CIA. Et en Israël, où de nombreux dirigeants politiques sont eux-mêmes des anciens des forces spéciales, recourir à des unités militaires clandestines de surveillance et d'intervention est une pratique ancienne. Alors on l'aura compris, Éric Denessé, aujourd'hui, face aux nouvelles menaces et notamment face à la menace terroriste, les unités de renseignement doivent opérer dans le plus grand secret et souvent en civil. Et là se pose bien évidemment un problème. Est-ce que des militaires peuvent opérer en civil? Alors la réponse est oui, je viens de le dire, pour les États-Unis, pour l'Angleterre et pour Israël. Mais qu'en est-il pour les autres pays?
Alors, la question, c'est que normalement, les militaires n'interviennent pas en civil. Il y a des règles de la guerre. Elles sont bien sûr contournées à chaque conflit. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a des exemples. Mais normalement, un militaire est toujours tenu d'intervenir en uniforme. Et c'est vrai que les trois États que vous mentionniez, tous les trois, pour des questions opérationnelles, et notamment parce qu'ils ne disposent pas de gendarmerie, qui est un corps qui vient couvrir, je dirais, l'intervalle entre la police et les forces armées, l'ont développé. Dans le reste du monde, eh bien, pour l'essentiel, ce phénomène n'existe pas. C'est vrai qu'on a peu d'éléments sur ce qui se passe en Russie et en Chine notamment, mais en règle générale, ce sont quand même des modes d'action et des innovations qui ont été mises au point, encore une fois, par les Britanniques, les Israéliens et les Américains.
Alors, pour les Britanniques, ça remonte à loin, hein. Je veux dire, la formation des SAS avant la Seconde Guerre mondiale et leur utilisation pendant la Seconde Guerre mondiale, je dirais, fait partie de l'ADN historique, finalement, des forces d'intervention secrète pour les Britanniques.
Oui, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les SAS intervenaient en uniforme. Ça restait, les interventions clandestines restaient du domaine du SIS, qu'on appelle le MI6. Par contre, la grande innovation britannique, elle a lieu à la fin des années 60, lorsqu'ils sont confrontés en Irlande du Nord au conflit contre l'IRA. Et à ce moment-là, ils se rendent compte assez rapidement qu'entre la présence des forces armées d'un côté et celle de la police nord-irlandaise, il leur manque quelque chose pour faire du renseignement efficace, pour pénétrer ces milieux révolutionnaires irlandais, pour faire de la surveillance. Et c'est à ce moment-là qu'ils développent des unités militaires clandestines. Alors très précisément, ce sont des unités militaires, c'est-à-dire avec des grades militaires, avec une structure militaire, qui dépendent du commandement militaire, mais qui ont le droit d'opérer en civil et sous fausse identité. C'est vraiment quelque chose d'assez rare.
Alors, on a aussi le même phénomène aux États-Unis. On parlera dans un instant d'Israël. Aux États-Unis, la force Delta ou les Navy Seals, on le voit dans plusieurs fictions, ce sont des unités militaires, mais qui peuvent également opérer en civil.
Oui, alors la pratique américaine est plus récente, elle date pour l'essentiel de la guerre contre le terrorisme, même si on en voit les prémices à la fin de la guerre froide et notamment sur l'opération de 79 en Iran. Il y a quand même une petite différence, c'est-à-dire que opérer en civil n'est pas nécessairement opérer en clandestin, et nous le faisons aussi parfois en France. Nos forces spéciales, le temps d'une mission, peuvent revêtir des tenues civiles. Par contre, là où les unités militaires clandestines vont plus loin, c'est qu'elles opèrent non seulement en civil, mais elles ont des fausses identités, elles ont mis en place des infrastructures clandestines, c'est-à-dire qu'elles ont tous les attributs d'un service spécial, tout en dépendant toujours des armées.
Alors, pour Israël, alors là, ça a été, je dirais, vulgarisé et montré par cette fabuleuse série qui est Fauda, où on voit ce qu'est une unité clandestine militaire, mais qui opère en civil.
Voilà, alors là, on a vraiment l'exemple parfait. En plus, je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est très visuel. Cette série en donne un bon exemple. Ce n'est pas ni le Mossad ni le Shin Bet qui intervient de l'autre côté du mur, en Cisjordanie ou à Gaza. Ce sont bien des militaires qui, à l'occasion de leur mission, d'abord apprennent les langues et parlent l'accent des zones dans lesquelles ils doivent pénétrer, sont capables de se déguiser, de se faire passer pour des Palestiniens, disposent aussi de faux papiers quand c'est nécessaire, et donc mènent ces opérations pour repérer, arrêter ou éliminer les terroristes qui préparent des actions contre Israël. Donc on est là vraiment dans la quintessence de l'opération militaire clandestine. Et je dirais que, bien sûr que c'est des pratiques qui sont nées dans la lutte contre le terrorisme depuis la création de l'État d'Israël, mais on a quand même des exemples et finalement une antériorité au sein de la communauté juive dès la Seconde Guerre mondiale, où des unités du Palmach travaillant pour le SOE, donc le service action du temps de guerre britannique, ont opéré à la fois au Levant contre les forces françaises de Vichy pour permettre l'intervention donc des alliés à l'époque, mais également en Afrique du Nord où des juifs de Ashkenaz venant d'Europe centrale ont pu se faire passer pour des Allemands parce qu'ils étaient blonds aux yeux bleus et puis également infiltrer l'Afrika Korps.
Alors la question qui peut se poser, bien évidemment, c'est pourquoi ces unités n'existent pas en France ?
Eh bien, écoutez, on le disait tout à l'heure, parce que nous avons une gendarmerie. C'est-à-dire que nous aurions en France, dans une région qui souhaiterait parvenir à l'autonomie ou faire sécession de manière violente, nous réagirions d'abord avec nos forces de police et de gendarmerie, auxquels on déciderait ou pas de donner une autorisation d'intervenir en civil, en tout cas pour les gendarmes, les policiers peuvent le faire, et nous n'aurions pas nécessairement besoin d'engager la force armée pour lutter contre eux, parce que nous avons cet échelon supplémentaire que n'ont pas les Britanniques. Nous avons malgré tout une pratique d'unité militaire qui intervient en civil, c'est le service action, mais c'est une différence notable. Le service action ne dépend pas de l'état-major des armées, bien que ce soit des militaires, ils dépendent de la DGSE, donc des services spéciaux, donc on ne peut pas dire au sens propre que ce sont des unités militaires clandestines.
Alors, vous faites bien de le rappeler, parce que on connaît tous, pour ceux en tout cas qui suivent cette actualité des services secrets, des services de renseignement, on sait cette guerre fratricide qu'on a entre les différents services, entre les différentes unités, entre les différents corps. Et la question qui se pose en lisant votre livre, c'est est-ce que ces unités clandestines militaires ne marchent pas sur les plates-bandes des services action, que ce soit de la DGSE, de la CIA ou du Mossad ?
Alors, en tout cas, aux États-Unis, on a bien sûr craint au départ que ce serait le problème numéro un. Mais en fait, il se trouve que les Américains ont été assez astucieux en créant ces unités militaires clandestines parce que ça leur a permis de contourner le contrôle parlementaire qui existe sur la CIA. Pourquoi ? Parce que le Pentagone, qui est quand même une machine extraordinairement complexe et développée, qui regroupe à lui seul 80% de la communauté du renseignement, mais aussi du budget, est beaucoup moins contrôlé par le Congrès. Donc la CIA, quoi qu'elle fasse, doit passer sous les fourches codines de la commission de contrôle des activités de renseignement, ce qui ne lui permet pas de mener des opérations clandestines à sa guise. Inversement, la Maison-Blanche, en passant par le Pentagone, peut dissimuler des tas de programmes, des tas d'unités, des tas d'actions aux parlementaires, et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, du coup, il y a une forme d'entente entre la CIA et les unités clandestines militaires qui font que les gens de la CIA se sont plutôt recentrés sur le renseignement, ont arrêté, ont diminué leurs opérations d'action, et puis donc tous les autres opérateurs des unités militaires clandestines ont pris le relais, que ce soit pour des missions de renseignement en zone difficile, mais également pour des interventions.
Et qu'en est-il du côté israélien entre le Mossad et justement ces unités clandestines ?
La situation est un peu plus claire côté israélien parce que le Mossad n'a jamais eu de service action très développé. Le Kidon est une unité extrêmement performante et de haut niveau, mais elle ne comprend que quelques dizaines d'hommes et de femmes et elle n'a jamais eu véritablement de conflit, d'engagement avec le Sayeret Matkal ou d'autres unités commando israéliennes. Donc là, la frontière était beaucoup mieux définie côté israélien et donc il n'y a pas cette confusion qui a pu exister aux États-Unis, qui a été résolue, qui est clairement aussi définie en Grande-Bretagne, mais par contre qui est beaucoup plus confuse en France.
Oui. D'ailleurs, je reviens un instant sur ce que vous disiez en France. Vous disiez, si une région faisait sécession, ce serait la gendarmerie qui interviendrait. Mais on sait, par exemple, que ces unités clandestines, qu'elles soient américaines, britanniques ou israéliennes, peuvent aussi intervenir hors des frontières. Comment ça se passe pour la France dans ce cas-là? Ce sont que les unités spéciales militaires qui interviennent?
Alors, oui, vous le disiez, les unités militaires clandestines interviennent au-delà des frontières. Elles ne font quasiment que ça aujourd'hui. Elles sont de moins en moins engagées sur les territoires nationaux, en tout cas pour les Britanniques et les Américains. En France, nous avons deux types d'unités qui interviennent à l'extérieur. Les forces spéciales, d'une part, et le service action, d'autre part. Les uns et les autres arrivant parfois à des situations de confusion ou de rivalité. Alors, ce n'est pas propre à la France. Vous le disiez tout à l'heure, tous les pays connaissent cela. C'est un peu comme la guerre des polices. Mais chez nous, c'est resté quand même depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, où par tradition, nous avons des forces spéciales rattachées à la DGSE qui ont fait pendant très longtemps, voire qui continuent à faire des missions qui finalement relèveraient à l'étranger des forces spéciales. Et on a encore eu tout un débat suite à la publication du livre du général Christophe Gomard, qui a été à la fois patron du commandement des opérations spéciales et du renseignement militaire, notamment au sujet de l'intervention en Somalie pour libérer un membre du service action, qui malheureusement, opération qui n'a été que peu réussie.
C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, ça me fait penser également à l'actualité la plus récente. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que des unités spéciales israéliennes ou américaines opèrent en Iran?
Alors, on sait qu'elles opèrent en Iran. On a quand même toute une série d'éléments, et non seulement américaines, britanniques et israéliennes, ça ne fait aucun doute. On a des éléments, en tout cas des confessions d'un certain nombre de membres de ces unités. Alors c'est toujours très difficile à recouper. Est-ce que tout ce qu'ils disaient est vrai? Est-ce que c'est pas exagéré? Mais en tout cas, il y a suffisamment de preuves pour savoir que des opérations transfrontalières en Iran existent. Alors, encore une fois, certaines relèvent de ces unités militaires clandestines, notamment côté britanniques et américains, parce qu'elles ont pris le relais des services spéciaux. Côté israélien, il semble plus plausible de dire que là, c'est une action que mène le Mossad et non pas les unités spéciales.
Ouais. Et concernant l'Ukraine?
Alors en Ukraine, je pense qu'il n'y a aucun doute quant à la présence d'unités américaines aux côtés des forces ukrainiennes, de la même manière que tout le monde sait que les petits hommes verts dont on a parlé à partir de 2014 sont des conseillers spéciaux issus du renseignement et des forces spéciales russes qui se trouvent de l'autre côté. Voilà, donc on est dans une forme de guerre secrète, alors qui a toujours existé, mais qui prend de nouvelles modalités depuis quelques années. Et donc, côté ukrainien, on sait très bien, d'ailleurs les Américains l'ont dit, que non seulement il y a des conseillers sur place qui peuvent aller jusqu'aux premières loges pour essayer de faire du renseignement et préparer des actions, mais également ils ont accueilli aux États-Unis des militaires ukrainiens pour les former à ce type d'action militaire clandestine, ce qu'on pourrait appeler les réseaux « stay behind » pour reprendre une expression qui date de la guerre froide.
Ouais. Vous le dites très bien dans votre livre, que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis ou Israël, ces trois pays font tout pour cacher ces unités spéciales clandestines, parce que d'abord on change leur nom très régulièrement. En Israël, on passe d'un numéro d'unité à un autre, on ne sait plus qui fait quoi, et en tout cas, même au sein des forces armées, ces forces armées ne connaissent pas ni l'identité, ni les missions, ni le caractère de ces unités spéciales.
Oui, ce sont des unités qui sont extrêmement protégées. Alors, il faut quand même reconnaître aussi que ces trois pays sont engagés dans des guerres, dans des conflits permanents. Donc, la sécurité opérationnelle est quelque chose d'essentiel, surtout à une époque où on a toutes les sources ouvertes, les sites internet, la presse qui volontairement ou involontairement lâche ou laisse passer des informations. Donc, il faut être extrêmement rigoureux sur la sécurité de ces unités. Mais c'est vrai qu'elles ont il existe une volonté de dissimulation dans ces trois pays. Comme vous le disiez, non seulement les noms d'unités sont changés, on crée des programmes où on dissimule leur budget dans divers programmes, on ne fait pas de publicité, donc même les collègues du Pentagone, du ministère ou des ministères de la Défense ne savent pas nécessairement ce que font les autres. C'est en tout cas quelque chose qui est au moins aussi secret, voire parfois plus que les services spéciaux eux-mêmes.
Éric Denessé, on sait que le monde dans lequel nous vivons, produit ce qu'on appelle des conflits asymétriques, d'où finalement l'utilisation de ces unités militaires clandestines. Est-ce qu'elles vont être amenées à se développer de plus en plus ?
C'est une question qui est intéressante de poser. Nous n'avons pas la réponse quand nous avons écrit ce livre, parce que on s'interroge quant au fait que, d'une certaine façon, développer des unités clandestines sur lesquelles le régime démocratique n'a pas de contrôle va à l'encontre finalement de nos valeurs dans nos sociétés ouvertes, dans lesquelles rien ne doit échapper à la supervision de la représentation nationale. Donc c'est vrai que ça pose un problème en termes démocratiques, en se disant c'est une espèce de force que va utiliser le pouvoir exécutif à sa discrétion pour mener des actions. La question se pose parce qu'on voit quand même se multiplier les moyens d'action dont peut disposer le gouvernement pour agir, puisque aujourd'hui dans les guerres asymétriques, les gouvernements occidentaux peuvent à la fois agir soit par leurs services secrets, soit par leurs forces spéciales militaires, mais aussi par leurs unités militaires clandestines qui sont encore légèrement différentes, et puis aussi par les sociétés militaires privées dont notamment les États-Unis et la Russie disposent. Donc ça fait déjà 4 leviers sur lesquels un État peut intervenir plus ou moins directement et plus ou moins discrètement.
Oui, on a vu hein, pour l'Ukraine, c'est l'utilisation massive par la Russie du groupe Wagner, hein, c'est ça ?
Oui, le groupe Wagner est maintenant très présent dans le monde, non seulement en Ukraine, mais en Centrafrique, au Mali, partout. Il faut toutefois rappeler que les Russes ne font finalement que copier et que faire ce que les Américains, eux, développent depuis des années. Et à ce jour, même si on doit condamner un certain nombre de pratiques des Russes, ils ne sont pas au niveau des exactions qu'ont commis les Américains un peu partout où ils sont passés, que ce soit à Bagdad, à Kaboul ou ailleurs. Donc il faut le dénoncer, mais encore une fois, je pense qu'il faut rester équilibré. Il y a malheureusement eu beaucoup plus de dérives de la part des sociétés militaires américaines à ce jour que ce que l'on reproche à Wagner.
Ouais. Encore un mot avec vous. Alors, pas directement lié à votre livre sur les unités militaires clandestines, mais plutôt sur, je dirais, la mentalité française par rapport aux services de renseignement, aux forces spéciales. Il y a toujours eu, de la part de beaucoup de présidents sous la Ve République, je dirais, pas une hostilité, mais comme un danger de voir ce que pourrait représenter le renseignement, alors que c'est une arme indispensable de toutes les démocraties. Est-ce que ça va un petit peu mieux de ce point de vue-là ? Est-ce que les politiques en France, finalement, comprennent l'utilité des services de renseignement, des services actions, des unités militaires clandestines, au point de ne plus en avoir peur ?
Alors, comme vous le disiez, nous avons en la matière un vieux retard, ou en tout cas un vieux comportement culturel de défiance vis-à-vis de ce monde-là, qui est essentiellement lié d'ailleurs à l'incompréhension de ce que l'on peut en faire, et parce que nous sommes toujours focalisés sur les échecs et les dérives et les impacts pour le politique que pouvaient avoir des erreurs commises par les services. En réalité, on sait très bien que les plus grandes erreurs ont toujours été commises par les dirigeants qui ne savaient pas utiliser les services comme ils se doit, et non pas par les services eux-mêmes qui ont fait des erreurs. Donc il faut reconnaître que les choses s'améliorent un petit peu, notamment depuis le début des années 2000, en raison de l'intensité de la guerre contre le terrorisme, où là, nos autorités savent très bien qu'elles ne peuvent pas réagir sans avoir des services de renseignement efficaces, sans avoir des forces spéciales qui d'ailleurs ont connu un gros développement capable d'intervenir et soit libérer nos otages, soit éliminer les terroristes sur leur sol. Donc les choses s'améliorent sans que nous en soyons au niveau bien sûr de ce qui existe en Israël et en Grande-Bretagne. Je ne dirais pas au niveau des États-Unis, parce que les États-Unis, comme toujours, ont une démesure dans les moyens, mais sur le plan culturel, ils ne sont pas nécessairement aussi pointus que ne peuvent l'être les communautés du renseignement et des forces spéciales en Israël, en Grande-Bretagne ou en Russie d'ailleurs.
La nouvelle guerre secrète, unité militaire clandestine et opération spéciale, c'est signé Éric Denessé et Alain-Pierre Laclotte, et c'est aux éditions Mareuil. Éric Denessé, merci d'avoir été notre invité sur Radio Shalom. Je rappelle que vous dirigez le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci et bonsoir.
Merci.